France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
La philosophie met le couvert cette semaine. Nous réfléchissons aux nourritures. Ce matin, un épisode sur les interdits et contraintes alimentaires, pour raisons religieuses ou non. Établir des règles à propos de ce qui entre dans nos bouches, interdire certaines choses pourtant consommables, en valoriser d'autres, créer des rituels, instaurer des temps de privation et d'autres de gourmandise pleinement autorisés, c'est là toute l'histoire de l'humanité avec la nourriture. Et force est de constater que les interdits et règles ne relèvent pas seulement d'un rapport au sacré, inhérent aux religions. Intérêt pour le jeûne, souci d'alerter à propos d'aliments en quelque sorte malfaisants, désir de penser l'éthique alimentaire dans le cadre d'une écologie respectueuse des animaux, d'autres règles et préoccupations apparaissent, on le voit bien, quand ce n'est pas la religion qui dirige l'affaire. D'ailleurs, du sacré au profane, on retrouve des points communs, notamment la question de la viande, de notre légitimité à manger de la chair animale. Beaucoup d'enjeux sont charriés par cette question. Nous allons analyser cela de près avec deux philosophes qui travaillent sur ces sujets. Bonjour Florence Burga.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Vous êtes directrice de recherche de l'INRA, Institut National de la Recherche Agronomique de l'Environnement et l'Environnement. Et vous êtes affectée à l'École Normale Supérieure depuis plus de 10 ans. Vous avez publié ces dernières années aux éditions du Seuil, L'humanité carnivore, L'inconscient des animaux, Qu'est-ce qu'une plante? Autant de livres qui tournent autour de nos problèmes de ce matin. Et à la Documentation française, vous avez fait paraître en 2022 un ouvrage intitulé « Les animaux ont-ils des droits ?». Et bonjour Olivier Assouli.
Bonjour.
Vous êtes enseignant à l'École supérieure d'art et de design de Reims, c'est ça? Vous êtes auteur chez Actes Sud d'un livre intitulé « Les nourritures divines », essai sur les interdits alimentaires qui désormais est disponible en poche chez Babel. Je signale aussi votre philosophie du goût, manger, digérer et jouir, publié chez Agora Pocket.
Ça fait longtemps que vous faites le marché du ramadan ici à la Guillotière?
Oui, ouais, ça fait depuis sa création, ça fait presque 20 ans.
Et vous faites le ramadan en même temps?
Ouais.
Et là, c'est pas trop dur, là, surtout en ce
moment? Honnêtement, en ce moment, c'est plus que dur, je dirais. Mais vu que c'est tout sec, j'y arrive même plus. Alors, enfin, non, pas du tout, vous n'avez pas eu de mort. La soif, c'est terrible. Terrible. Je plains, honnêtement. Je plains ceux qui n'ont pas d'eau, en particulier l'Afrique. Là, je me dis, mais les pauvres, comment ils font sans boire? Là, on ressent bien hein, de rester 16 heures sans boire, parce qu'on jeûne que 16 heures. Hein. Sans boire, mais les pauvres, je les plains de tout mon cœur, honnêtement. De toute façon, le ramadan, il sert à ça, à la base. Hein. Se rendre compte de ce que c'est d'avoir faim, d'avoir soif. C'est un peu pour être à la place de ceux qui n'ont pas, quoi. Ce qui me fait résister, c'est qu'on doit le faire, point barre. Voilà, ça s'arrête. On doit le faire, donc on résiste, et puis... J'irai pas le casser, j'irai pas boire un verre d'eau, quoi. C'est clair et net.
Vous n'avez jamais craqué? Il n'y a jamais des jours?
Si, honnêtement, ouais. Je suis fumeuse. Alors, ouais, il y a eu des fois où, un petit peu pas bien, un petit peu, bah, hop, j'ai fumé une clope. Alors, je suis née en France et tout, on est vachement francisé, mais le ramadan, c'est, je sais pas, c'est spécial, le ramadan.
C'était une archive des Pieds sur Terre sur France Culture de septembre 2011. Le ramadan, cette année, je le précise, c'est du 1er mars au 30 mars, autour du 30 mars, selon sunnites et chiites, je crois qu'il y a un jour d'écart. C'est presque en même temps que le carême des chrétiens, qui lui est du 5 mars au dimanche 20 avril. Ce qu'on entend dans cette archive, et qui est assez frappant, Olivier Assouli, c'est à la fois qu'il y a une souffrance, c'est dur, et notamment la soif, c'est dur le ramadan, surtout dans des périodes estivales. Que ça rend empathique, ça me fait penser, dit cette dame, à tous ces pays où il n'y a pas d'eau, ou pas beaucoup d'eau. Et ensuite, c'est une règle, c'est ainsi, je désobéis un peu pour fumer, mais grosso modo, pour tout ce qui concerne l'alimentaire, je ne désobéis pas. J'ai besoin que ce soit clair et net, établi et respecté. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet ensemble de propos, Olivier Assouli, par rapport à vos travaux?
Alors, un certain nombre de choses. Déjà, le fait même de la souffrance, et j'ai envie de dire inhérent à l'abstinence ou au jeûne, puisque sans souffrance, au fond, l'effet corporel, patent, ressenti serait à peu près nul, donc ce qui annulerait aussi la règle elle-même dans sa sensibilité. Ensuite, effectivement, il y a le fait qui est assez frappant dans le témoignage, c'est que c'est une obéissance qui semble en partie assez aveugle, en tout cas aux raisons profondes qui conduisent à obéir à la règle, puisque cette personne fait référence au fait qu'elle a une sorte d'empathie en se mettant à la place de ceux qui n'auraient pas accès à d'eau, à de l'eau ou à d'autres aliments. Et en réalité, si on reprend les textes eux-mêmes religieux, que ça soit d'ailleurs le Coran ou l'Ancien Testament, on voit que généralement il y a une énonciation de la loi, notamment dans le judaïsme mais également dans l'islam, qui consiste à indiquer ce qui est interdit, en l'occurrence le porc, puisque c'est l'animal emblématique aussi bien dans le judaïsme que dans l'islam, mais sans qu'on ait au fond l'explication au sens rationnel de l'interdiction. C'est-à-dire qu'on connaît le système des règles, on peut les dérouler, on a une sorte d'inventaire, de classification, mais sans qu'on ait de raison au sens rationnel. Ce qui fait qu'on interdira telle espèce de mammifère, mais sans en savoir davantage.
La religion n'a pas besoin de dire pourquoi elle interdit. Et c'est vrai que dans la cacheroute juive, dans les règles de l'alimentation, il y a énormément de règles. Il n'y a pas seulement le porc, il y a des règles sur la nature des animaux qu'on peut manger, nageoires et écailles seulement pour les poissons, sabots fendus, ruminants pour les animaux, mais pour les animaux qui ne sont pas des poissons. Mais en outre, les mélanges sont problématiques. On ne mélange pas la nourriture carnée dans le judaïsme avec la nourriture lactée. Il faut au moins 3 heures, je crois, entre l'ingestion d'aliments de ces deux sortes. C'est vrai que c'est la règle pour la règle, c'est-à-dire que c'est comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un besoin de ça, semble-t-il, chez les êtres humains. C'est votre thèse, d'ailleurs.
Alors, je ne sais pas s'il y a un besoin, en tout cas, il y a un besoin de législation qui excède, au fond, le champ religieux, puisque dans un champ qu'on appellerait laïque, il y a effectivement le fait de pouvoir consommer des espèces animales qui pourraient être comestibles, mais qui ne le sont pas pour des raisons, on va dire, culturelles. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, il y a une extension de la règle à des champs non religieux. Ensuite, effectivement, dans le judaïsme, on a la règle qui s'applique à des animaux qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs tous nommés, puisqu'il suffit de dire qu'un poisson doit avoir des écailles et des nageoires, et par déduction, au fond, le croyant peut ensuite appliquer la règle. Mais je le redis sans avoir l'explication. Au fond, le système d'explication, le besoin d'explication ne naît que beaucoup plus tardivement, si on prend le judaïsme, avec notamment Maïmonide dans le Guide des Égarés, qui commence à rapprocher, à identifier un peu systématiquement l'animal, en l'occurrence le porc, puisque ça ne peut pas devenir un animal emblématique, d'un animal qui a la réputation de vivre dans l'immondice, d'être omnivore, d'être sale, donc d'être un élément de souillure, alors pas tant au sens de la souillure au sens religieux du sacré, mais de la souillure au sens vraiment hygiénique, quoi. Ce qui amène quand même une différence assez notable. Et à ce moment-là, on voit effectivement se développer un certain nombre d'explications, dont l'explication médicale, qui va devenir, on va dire, la principale source de rationalisation, quoi.
Avec l'idée aussi de susciter du dégoût réel. C'est à force de dire que voilà, les porcs sont très sales, etc.
Oui, voilà. Alors,
cette idée qu'il faut que ce soit dégoûtant.
Oui, mais on la retrouve, puisque même au XIXe siècle, quand on essaye d'expliquer la trichinose, cette maladie liée à l'assimilation, à l'ingestion de porc, effectivement, on remobilise l'argument médical. Mais évidemment, avec une limite, c'est qu'au plan religieux, il est en réalité inopérant, puisqu'il suffirait de remédier au problème sanitaire, au fond, pour à ce moment-là suspendre l'interdiction de tel ou tel animal, ce qui n'est pas le cas.
Oui.
Voilà,
c'est-à-dire que là, il y a quand même un échec, ça c'est très intéressant, on va y revenir, parce que je pense que vous tenez là une ligne très très stimulante pour la réflexion. Pour vous, c'est intéressant, il y a un échec à expliquer les règles. C'est-à-dire que les règles religieuses, et peut-être même, ça on va y revenir, les règles non religieuses, il y a toujours un moment où c'est la règle pour la règle et l'explication plus rationnelle échoue.
Oui, parce que l'explication se place du côté, on va dire, de quelque chose qui intéresse peut-être beaucoup la philosophie, mais qui intéresse assez peu la religion, c'est le champ de la rationalité, alors que les règles elles-mêmes ont un caractère qui relève de la croyance. Donc elles n'ont pas, au fond, on n'aurait pas à en rendre raison.
Alors Florence Burga, vous travaillez surtout sur l'animal. Il y a des règles religieuses qui, quand même, souvent, se justifient pour ne pas trop faire souffrir l'animal, dit-on. Les règles du rituel, le rituel d'abattage des animaux halal, pour qu'ils soient halal, qu'ils soient purs. On dit que c'est plus rapide, qu'on le fait moins souffrir. Les règles de l'abattage juif aussi, semble-t-il, insistent là-dessus. Peut-être que c'est pas vrai, d'ailleurs, j'en sais rien. Vous, c'est votre spécialité. Est-ce que vous pensez que la question de la cruauté des humains au moment de tuer les animaux est un enjeu absolument central et pour le coup avec une rationalité, si vous voulez, ou vous pensez comme Olivia Souli que c'est pas si simple?
Alors peut-être que j'aimerais revenir sur votre discussion en éclairant un peu les choses à partir du concept de tabou tel que Freud l'emploie dans Totem et Tabou, hein, où il dit au fond le tabou, et en particulier ce dont nous parlons, les tabous alimentaires, il n'y a aucune explication rationnelle qui puisse donner une explication. Et précisément ce qui fait la force du tabou, c'est cette absence d'explication. Oui. Et il dit ce terme lui-même recèle une contradiction, c'est à la fois la chose sacrée, consacrée, et en même temps dangereuse et impure. Et au fond, il n'est pas nécessaire de légiférer pour interdire. L'idée même du tabou est suffisamment forte pour que celui qui pourrait avoir l'idée de transgresser est trop inquiet à l'idée de transgresser un tabou en raison des conséquences qui pourraient en sortir. Donc il montre que cet aspect irrationnel de l'interdit, qu'on appellera ici tabou, est beaucoup plus fort qu'une raison qui viendrait expliquer, parce qu'il dit on pourrait toujours la contester à partir d'arguments, alors que là il n'y en a pas. Comme cela a été dit dans le reportage, point barre, voilà.
Donc vous êtes, en citant Freud, sans le démentir, vous êtes d'accord avec Olivia Souli. Il y a dans les règles alimentaires, en particulier quand elles sont religieuses, mais peut-être que ça va au-delà, un tabou, c'est-à-dire quelque chose d'inexplicable.
Oui,
toujours.
Il semble que oui, dans ces règles, comme Olivier vient de le...
Et pourquoi l'humain a besoin de ça, d'après vous?
Je ne sais pas si l'humain en a besoin... Je ne sais pas si l'humain en a besoin. Peut-être qu'on peut voir là l'expression d'une angoisse assez profonde et assez générale, et qui va notamment s'exprimer dans le champ, comme vous le disiez, de ce qu'on ingère, de ce qu'on met dans sa bouche et de ce qu'on mange. Donc c'est un acte tout de même.
Et les Freudiens auraient des choses, les psychanalystes voilà, auraient des choses à dire là-dessus.
Qui n'est pas anodin, bien évidemment. Donc
ça a à voir avec ça. Bon, évidemment, d'un point de vue religieux, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est vrai, c'est la révélation. Donc pour eux, il y a une explication en fait. Mais lorsqu'on essaye d'analyser, si on considère que les choses religieuses ont aussi très largement été inventées par les humains, là on a un petit problème, on ne sait pas bien...
Oui. Je pense qu'on ne peut pas vraiment éclairer l'origine de tous ces interdits. Il y avait les interdits sanitaires qui peuvent beaucoup plus tard expliquer, mais je pense que ça n'épuise pas du tout la signification du tabou qui résiste à l'explication.
Alors, vous nous avez parlé d'un texte. Et je vous en remercie vivement, Florence Burga, en préparant cette émission. Un extrait de l'autobiographie de Gandhi. Une autobiographie de 1927 qui est disponible en français aux presses d'Université de France et même en collection de poche Kadrige. Et dans ce texte, Gandhi semble dire, mais on va analyser, qu'il est passé d'un interdit religieux concernant le fait de manger la viande à un interdit plus rationnel grâce à un livre.
Oui, c'est ça.
Nous allons décrypter tout cela. Écoutez cet extrait.
J'entrepris de me promener au hasard. Au cours de ces pérégrinations, le hasard me fit tomber sur un restaurant végétarien dans Farringdon Street. Cette découverte m'emplit d'une joie comparable à celle de l'enfant qui voit enfin combler son rêve le plus cher. Avant d'entrer, je remarquai près de la porte une vitrine où étaient exposés des livres pour la vente, entre autres le plaidoyer pour le végétarisme de Salt, que j'achetais pour un shilling. Après quoi je pénétrai sans plus attendre dans la salle du restaurant. Ce fut le premier repas que je mangeais de bon cœur depuis mon arrivée en Angleterre. Dieu m'avait secouru. Je lus de bout en bout le livre de Salt, qui me frappa vivement. Je peux dire que c'est de là que date ma décision de me faire végétarien. Je bénissais le jour où j'avais prononcé mon vœu devant ma mère. Pas un instant, je n'avais cessé de m'abstenir de toucher à la viande, au bénéfice de la vérité et de mon vœu. Mais cela ne m'avait pas empêché de souhaiter en même temps que les hindous fussent carnivores, et j'avais aspiré à le devenir moi-même un jour, librement, ouvertement, ainsi qu'à recruter des adeptes. Cette fois pourtant, mon choix était fait. J'optais pour le végétarisme, et sa propagation devient dès lors pour moi une mission.
C'était Gandhi évoquant un texte de Henry Salt. Alors Henry Salt, c'est un écrivain anglais, né en 1851, mort en 1939, militant pour des réformes sociales et pour changer aussi le traitement des animaux. Il a écrit 40 livres, ai-je découvert, et dont ses plaidoyers pour le végétarisme. Je crois qu'il a présenté à Gandhi des textes, enfin qu'ils ont eu une relation intellectuelle. Mais là, en l'occurrence, il s'agit du végétarisme. Ça fait du bien, pensez-vous, quand on est, enfin, de passer d'une explication religieuse, c'est-à-dire d'une non-explication au sens de la rationalité humaine, à une explication rationnelle humaine pour justifier l'interdit. L'interdit de manger de la viande, Florence Burgal. Et les gens en ont besoin, qui est quand même une raison.
Alors, je crois que le cas de Gandhi est très intéressant pour comprendre la pluralité des végétarismes, une même pratique qui, au fond, est motivée de façon radicalement différente, puisque Gandhi appartient donc à une famille hindoue de caste végétarienne.
Oui.
Il part en Angleterre, très jeune, faire ses études pour devenir avocat, et sa mère lui demande de respecter cet interdit, ce qui est vraiment un interdit culturel hérité, et donc sur lequel il ne s'est jamais interrogé. Et bien sûr, en arrivant en Angleterre, même si dans ce pays il y a des végétariens, la pratique habituelle est évidemment le carnivorisme. Et son végétarisme nuit un petit peu à son intégration sociale. D'où cette allusion dans le texte au fait qu'il aurait tant aimé que les hindous fussent carnivores, mais que cependant il n'avait jamais rompu son vœu. Et c'est donc, il parle dans cette autobiographie de la difficulté qu'il a à se nourrir, puisque, en soustrayant la viande et le poisson aux plats qui lui sont proposés, il a faim en réalité. Et donc, c'est intéressant de voir que cet hindou végétarien par tabou considère que dès lors qu'il va refonder son végétarisme sur des raisons éthiques et rationnelles en lisant Salt sur les droits des animaux, il décide de faire du végétarisme une mission. Donc je trouve que c'est très intéressant de voir un régime alimentaire qui pour lui n'a aucune espèce de sens, sinon celui de l'interdit qu'il faut respecter, à quelque chose à quoi il va adhérer.
C'est quoi, alors qu'il s'agit c'est le même fait régime. Que eh bien, c'est en fait, mal, c'est de faire du mal aux animaux.
Oui,
et la mission, c'est d'éradiquer mal qu'on leur inflige.
Oui, c'est ça. C'est dans la philosophie non violente de Gandhi, d'étendre en fait ce concept de non violence aux animaux, et il trouve pour nourrir ce concept à la fois des données occidentales, comme Salt, par exemple, ici, mais aussi dans sa propre culture, et en particulier dans le jaïnisme. Donc c'est une pensée très éclectique, et elle est intéressante aussi de ce point de vue-là. Et Gandhi essaiera d'œuvrer avec le ministère de l'Agriculture pour rendre économiquement absurde l'abattage des animaux. Donc c'est véritablement une mission au sens d'essayer d'instaurer en fait un végétarisme en rendant l'abattage des animaux économiquement contre-productif.
Olivier Assouli, vous m'avez alerté sur une phrase de Lévi-Strauss, très belle phrase. Il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser. Autrement dit, oui, nous avons besoin d'élaborer intellectuellement, certains diraient spirituellement, quand ils sont religieux, autour de ce qu'on se met dans la bouche. Mais ce qu'on vient d'entendre là à propos de Gandhi montre que on peut penser le tabou pur, l'interdit, on pense mais on ne comprend pas. Il y aurait néanmoins un besoin, et Gandhi lui-même l'illustre, à un moment, surtout quand on est moins religieux, de comprendre, pas seulement de penser, mais de comprendre pourquoi on ne mange pas tout. Vous êtes d'accord ?
Alors, oui, alors j'ai envie de dire qu'avec peut-être qu'une des... Une des spécificités de l'hindouisme et du jaïnisme auquel Florence faisait à l'instant allusion, c'est effectivement de se référer à l'ahimsa, qui renvoie à la non-violence, qui est peut-être une...
Dans l'hindouisme, vous voulez dire ?
Oui, dans l'hindouisme, mais également dans le jaïnisme. Oui. J'ai envie de dire qu'il y a l'avantage, si on se place du point de vue de la rationalité, de nous permettre, au fond, de faire ce passage du tabou à l'explication un peu rationnelle, puisque... Oui. Le fait qu'une société puisse tendre vers la non-violence pourrait constituer un idéal, au fond, qui aurait une valeur un peu plus universelle que des explications qu'on a tenté de produire dans d'autres religions, les religions du livre, visant à justifier de façon médicale, de façon économique, de façon morale, des choses qui étaient, au fond, difficilement... des tabous qui étaient difficilement éclairables par les voies de la raison. Donc, il me semble qu'il y a effectivement cette possibilité de passage, puisque quand on prend les textes des jaïnisme, on voit assez bien, au fond, s'organiser toute une architecture qui concerne évidemment les espèces animales, qui sont quand même, évidemment, au centre du système des tabous.
Oui, alors c'est
majoritairement.
Mais pas. Et pourquoi pas ça va être l'essentiel de notre sujet, notre conversation qui va venir.
Alors c'est vrai, mais pas exclusivement, parce que dans les religions du livre, il y a effectivement, alors non pas des interdits, mais un certain nombre de règles qui visent, par exemple, à ne pas consommer un fruit d'un arbre pendant quelques années. Mmh. Voilà, mais c'est vrai, ce sont des règles, effectivement, qui n'ont pas de valeur absolue, qui sont généralement temporaires et qui sont qui pèsent assez peu sur les pratiquants. En revanche, puisqu'on parlait à l'instant de l'Inde,
oui,
et du jaïnisme, il y a cette fois des règles qui frappent les végétaux. Alors, pas les végétaux, on va dire, en tant que tels, mais les végétaux à partir de la manière dont ces végétaux sont en contact, on va dire, avec des êtres vivants animés, donc des animaux, et ce qui explique que certains tubercules ou des bulbes ne sont pas, donc des végétaux, ne sont pas autorisés à la consommation, précisément parce que la culture de ces végétaux entraînerait, avec des travaux de labour, la mort d'un certain nombre d'insectes, de vers, voilà, de toutes sortes d'animaux qui vivent, mmh, effectivement dans la terre, donc au contact de ces animaux. Et c'est le cas également pour d'autres pratiques pour les jaïns, à savoir le fait de, par exemple, de ne pas consommer certains aliments la nuit, de peur d'inoculer, donc d'inhaler accidentellement, sans le voir, un certain nombre de moucherons ou d'insectes. Vous voyez, donc à ce moment-là, on a une extension.
Oui. C'est bien la question de l'animal encore qui se loge à l'intérieur d'autres interdits.
C'est la question de l'animal qui est encore, même sur le autour du végétal, même s'il y a des ça implique également le fait de ne pas pouvoir consommer de miel, qui est évidemment lié à cette fois à une forme de violence qui consiste non pas simplement à tuer, mais
à détruire.
À détruire et puis avoir une activité de prédation, enfermée, contenir, parquer, etc. sont des activités en soi violentes au-delà de la mise à mort.
Alors pourquoi la chair animale, religieusement ou non religieusement, s'impose à nous comme un problème depuis la nuit des temps? Plus tard qu'on a parlé, l'historien romain, Plutarque propose un texte que vous nous avez signalé, qui est très intéressant, que nous allons écouter maintenant, « Manger de la chair ». Donc c'est à la fin du 1er siècle, au début du 2e siècle après Jésus-Christ. Vous écoutez ce texte dans la traduction de Jean-François Prado au PUF.
Voilà que tu t'interroges sur la raison pour laquelle Pythagore s'abstenait de manger de la chair. Pour ma part, ce qui provoque mon étonnement, c'est plutôt de savoir dans quelle disposition et quel état d'âme ou de raison fut le premier homme qui porta à sa bouche un carnage et avança ses lèvres vers la chair d'un animal mort, qui posa ensuite sur ses tables des corps morts et des cadavres inanimés, et qui appela repas, et encore mieux, raffinement, des morceaux qui, quelques instants avant, mugissaient et criaient, se mouvaient et vivaient. Comment son regard a-t-il pu supporter le carnage des gorges tranchées, des peaux écorchées et des membres arrachés? Comment son nez a-t-il pu supporter la puanteur? Comment la souillure n'a-t-elle pas révulsé son goût, alors qu'il touchait les plaies d'autres vivants et qu'il aspirait les jus et les sécrétions des blessures mortelles? Voici ce qui est véritablement monstrueux. Lorsque quelqu'un a faim de ce qui gémit encore, qu'il désigne les animaux dont il faut se nourrir alors qu'ils sont encore bruyants de vie, et qu'il prescrit certains assaisonnements, des cuissons et des présentations. C'est sur l'homme qui le premier commença tout cela que doit porter l'examen, et non pas sur celui qui plus tard y mit un terme.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
Dans notre série de cette semaine consacrée aux nourritures, ce matin nous parlons des interdits alimentaires et des règles et contraintes en général dans ce domaine. Les raisons peuvent être sacrées ou profanes. Je suis en compagnie d'Olivier Assouli et de Florence Burga. Florence Burga qui a beaucoup réfléchi dans ses travaux au rapport à l'animal. Alors dans ce texte de Plutarque que nous venons d'entendre, il y a un étonnement de Plutarque qu'on puisse ne pas être écœuré par la chair animale. La notion de plaie qui saigne est au cœur du texte, la notion de puanteur aussi. Quelle est votre analyse de cet écœurement de Plutarque dont il s'étonne qu'il ne soit pas davantage partagé?
Alors je crois qu'on peut dire d'abord que c'est le texte fondateur de la réflexion sur la légitimité de la mort, la mise à mort des animaux. C'est le texte que Rousseau va citer très longuement dans l'Émile. Et c'est le texte qui dit tout. Au fond, je pense qu'on pouvait s'en tenir là. Parce que c'est un texte qui part à rebours. On le voit à la fin du texte. Il y a la cuisson, la présentation, les assaisonnements de quelque chose qu'on appelle la viande et qui est complètement coupé de sa vérité, de son processus d'engendrement. Et Pythagore remonte vers la séquence qui est toujours cachée et qui nous permet finalement de consommer ce qu'on appelle de la viande sans avoir clairement conscience du processus, en fait, de ce qu'il en a coûté à l'animal. Et donc, ce qu'il appelle en effet ici dégoût, puanteur, etc., c'est véritablement le fait de mettre tout à coup en face le carnivore qui est face à un plat assaisonné, raffiné, avec ce qu'il a fallu cacher, c'est-à-dire cette mise à mort, ces plaies, etc. Donc tout est dit dans ce texte.
Tout est dit, mais en fond, il n'y a qu'un seul aspect qui est dit. Et je sais bien qu'il est stupéfiant, voire très convaincant. C'est que la chair crue, animal cru, il y a quelque chose qui répugne pas mal de monde. Enfin, il y a des gens qui ne peuvent pas entrer dans une boucherie, mais qui peuvent très bien déguster un rôti, le cuit, comme dirait Lévi-Strauss, change la donne.
Mais c'est ce qu'il dit, là. C'est ce qu'il dit, oui. Oui. C'est ce qu'il dit.
Mais quand même, ça marche. Il a raison. Il y a des gens pour qui c'est tout à fait...
Oui, parce que tout
c'est délicieux.
Parce que tout est...
Parfois aussi, la viande cuite.
Bien sûr. Mais ça... Ça n'est pas ce que Plutarque met en question. C'est vraiment un texte sur la question morale et non pas sur le fait qu'il n'aurait pas lui-même peut-être d'appétence pour ces viandes préparées. C'est vraiment attirer l'attention sur la vérité de quelque chose qui n'est pas donné dans précisément ce plat assaisonné qui nous permet aussi de faire l'économie d'une interrogation morale sur laquelle, là, il nous met en face de façon très, très brutale.
Je répondais juste à votre « tout est dit ». Si ça ne marche pas, l'argument, c'est que tout n'est peut-être pas dit. Et donc, voilà, je vais, Olivier Assouli, vers le point qui souvent apparaît derrière le dégoût. de la viande crue, c'est que ça nous rappelle notre chair à nous, les plaies. Nous aussi, nous saignons quand nous sommes blessés. L'angoisse fondamentale qui génère le dégoût majeur, alors celui-là franchement convaincant, semble-t-il, en tout cas pour plus de gens, c'est le dégoût de manger quelque chose qui ressemblerait bien trop à de la chair humaine. C'est ça, Olivier Assouli?
Ce qui me semble être le cas, il y a un jeu de miroir, effectivement. Alors, je pense qu'il y a, dans ce texte, effectivement, qu'il y a un texte fondateur de Plutarque, comme vient de dire Florence, largement reprendre Rousseau dans l'Émile. Il me semble qu'il y a aussi une dimension rhétorique, au bon sens du terme, au sens d'un stratagème discursif, qui consiste, au fond, à mettre le lecteur, non pas dans une situation de déjà-vu ou de déjà-mangé, mais d'être capable, au fond, de faire une sorte d'époquée ou de suspension, lui permettant de revenir à un état dans lequel, un état originaire, où il serait pour cet homme qui, pour la première fois, puisque c'est le sens du texte en partie, il serait la première fois exposé à cette situation. Et au fond, dans la capacité à revenir, au fond, à une situation originaire, à voir ce que nous sommes incapables de voir à présent, est une situation qui, logiquement, devrait appeler le dégoût. Au-delà des subterfuges, à savoir la cuisson, la préparation, le raffinement, et le fait que on consomme à terme, effectivement, non plus de l'animal qui a été nié ou mis à la marche, mais de la viande. Voilà, c'est la négation de l'animal.
Donc, par les règles, alors de la cuisson, mais toutes les autres règles dont nous avons déjà parlé, que les religions ont mises en avant, et sans doute d'autres règles plus ou moins conscientes qui existent même chez les non-religieux, on fait tout pour oublier que c'est de la chair et donc que ça pourrait ressembler à notre chair.
Alors, il y a un double mécanisme. Il y a un mécanisme, effectivement, de négation de l'animal qu'on trouve dans les religions, à travers l'abattage rituel, dans le judaïsme, à travers le fait de, ne serait-ce que de saler la viande pour en éradiquer le sang étant effectivement la marque de vie qui appartient uniquement au divin, etc. Donc il y a tout un processus qui consiste effectivement à élaborer une sorte d'artefact qui n'aurait plus de rapport avec l'animal. Mais c'est plus compliqué que ça parce que l'autre volet fait qu'il y a une négation, que l'animal est mis en retrait, mais il n'est jamais complètement éliminé, on pourrait dire, parce que dans l'acte qui consiste à manger de la viande, au fond, il faut aussi que l'animal reste présent précisément parce que le mangeur ne tient pas simplement à être en présence d'un simple morceau de muscle qui ne serait pas en rapport avec l'animal. Ce qui explique le fait qu'il y a ce double mécanisme, à la fois de mise en retrait, oui, mais aussi de toute une série de stratégies, ne serait-ce que dans une boucherie, qui rappelle aussi que cet animal a été transformé, mais qu'il n'en reste pas moins un animal. Ce qu'on voit d'ailleurs à l'œuvre, lorsqu'on essaye de penser la consommation de viande à travers des produits de substitution, pas des produits d'origine végétale, mais des produits qui se développent tels que la viande in vitro, où effectivement les résistances à la possibilité de consommer cette viande-là nous informent d'une certaine manière sur le sens et la finalité de ce que signifie manger de la viande.
Peut-être que nous avons quand même très envie, même si nous régulons un peu la chose, de manger de la chair. Ça, c'est un problème, c'est une question, avec derrière sans doute le tabou du cannibalisme, et vous venez de le dire, qui est élaboré d'une drôle de manière. Alors, puisqu'on est dans le tabou, vous allez être servi. Voici un extrait du film Barbac de Fabrice Eboué de 2021 qui met en scène un couple de bouchers dont la petite boucherie artisanale est en difficulté. Le mari Vincent, c'est Fabrice Eboué. L'épouse Sophie, c'est Marina Foïs. Marina Foïs. Des militants véganes attaquent la boucherie. Vincent paniqué tue accidentellement un des militants. Il cherche à se débarrasser du corps en le découpant pour en faire une sorte de viande qui est destinée, dans son esprit, à être jetée parmi les déchets de la boucherie. Mais par hasard, cette viande humaine se retrouve sur l'étal et a un curieux succès.
Il est où ?
Qui ?
Le jambon qui était dans la réserve.
Mais il est sur la troncheuse.
Quelqu'un en a acheté ?
Du jambon de ce matin. Mon mari et moi, on n'a jamais goûté un truc pareil. Je vais vous en reprendre 10 tranches.
Bah tu vois, j'ai bien fait de le servir.
Coupe-moi un petit bout que je goûte.
Oh mon Dieu.
Quoi ?
C'est du porc de Bigorre, c'est ça ?
C'est pas du porc de Bigorre, ça. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est délicieux.
C'est quoi ?
C'est du porc d'Iran.
D'Iran ?
Parce qu'après la révolution des ayatollahs, dans les années 70, ils ont dit stop au porc, ils ont exterminé tous les porcs, et il restait quelques élevages clandestins, et il y a un petit éleveur français qui a réussi à se procurer quelques porcs d'Iran.
Merci. Merci madame
Cognard. Merci,
au revoir. C'est quoi ce porc, Vincent ?
J'ai essayé de t'expliquer hier soir. Je me suis dit que ce serait mieux de le transformer en viande et puis de le jeter avec la marchandise périmée, petit à petit.
Tu m'as fait bouffer de l'homme.
Du vegan. C'est un herbivore.
T'as fait bouffer de l'homme à madame Coignard.
Je vais m'en débarrasser tout de suite.
Non, Vincent, attends. C'est tellement bon.
C'est du cannibalisme.
Oh, tout de suite. Ça fait 2000 ans qu'on nous fait bouffer le corps du Christ à la messe. Ça dérange personne, hein.
C'est terrible, parce que ça met le doigt exactement sur ce que nous voulons éviter. C'est-à-dire de nous souvenir que dans la chair animale, il y aurait, en théorie, la chair humaine. Et avant que l'émission commence, Florence Burga, vous m'avez dit que les cannibales, alors vous allez me dire de qui vous parliez, dans l'histoire humaine, ont toujours dit que la meilleure chair était la chair humaine.
Alors, on peut en revenir à cette question. Quand j'ai donc travaillé pour ce livre, L'humanité carnivore, je me suis penchée, bien évidemment, sur la question du cannibalisme. Et les ethnologues ont identifié une catégorie particulière de cannibalisme qui s'appelle gastronomique ou de gourmandise. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un cannibalisme de survie, qui est pratiqué, par exemple, lorsque les villes sont assiégées ou en période de famine, mais qu'il s'agit véritablement de manger une chair qui est considérée comme la plus goûteuse, alors même que l'alimentation comporte des viandes issues des animaux. Donc ce cannibalisme s'appelle cannibalisme gastronomique ou de gourmandise, sans vouloir être trop scabreuse, on trouve les recettes de cuisine, les préférences pour tel ou tel morceau, etc. etc.
Vous pouvez redire où et quand ?
Ah ben dans des tas de régions du monde et à des tas de périodes différentes. J'ai pas en tête le détail, mais enfin ça n'est pas un petit phénomène isolé quelque part dans quelques années. Voilà. En tout cas voilà, au sein de cette pratique du cannibalisme, il y a ce cannibalisme là. Alors dans l'extrait que vous avez passé, cet extrait m'a fait penser à une phrase de Freud qui dit, au fond le seul problème du cannibalisme, ce serait le meurtre qui précéderait cette consommation. Parce que sinon, quel serait le problème de manger de la viande humaine ? Donc je trouve intéressant cette remarque qui, là aussi, met le doigt sur, finalement, le seul problème vraiment fondamental qui est celui de mettre à mort, puisque ce dont nous parlons dans cette émission, c'est d'un aliment tout à fait particulier dans l'ensemble des nourritures que nous consommons. C'est le fait que cet aliment est issu de la mise à mort d'un animal qui, bien évidemment, a, tout comme nous, le désir de poursuivre sa vie. Donc, ce qui est grave, c'est de mettre à mort pour manger. Et oui. Peut-être pas tellement de manger.
Et qu'est-ce que vous dites là, vous ? Vous êtes d'accord avec cette remarque ?
Oui, et ça me fait penser aussi à cette affaire de la cordillère des Andes. Vous savez, quand cet avion s'est écrasé et que ces malheureux survivants se sont résignés à consommer de la chair humaine, là aussi en prenant des petites lamelles, enfin avec des règles, hein, comme vous insistiez à juste titre.
Ah, ils ont eu des règles, moi je savais pas.
Oui, ils ont eu des règles. Ils se sont pas jetés sur leur compagnon de façon. Voilà, il y avait des étudiants en médecine, c'est eux qui ont eu cette idée. Et ce qui est très choquant, c'est que à leur retour, lorsqu'on leur a dit mais comment pendant 3 mois avez-vous survécu et qu'ils ont fini par expliquer cela, eh bien tout le monde leur est tombé dessus. Alors qu'ils n'ont tué personne. Il y avait des morts autour d'eux, ils n'avaient rien à manger, ils étaient pris dans la glace et ils ont survécu en pratiquant ce cannibalisme, alors là, qui n'avait rien d'un cannibalisme de gourmandise, hein, en prélevant des petites lanières de chair, jamais par exemple sur le visage. Et ils ont survécu de cette manière. Et il y a eu une réaction outrée.
Comme quoi, le problème n'est pas seulement la mise à mort, contrairement à ce que disait Freud, c'est le fait de manger cette chair-là.
Bon, oui. Enfin, on peut discuter. Voilà, on peut discuter. Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Assouline?
Je rejoins Florence sur la question de la mise à mort, mais je crois que c'est aussi le centre de gravité, parce que si on revient aux questions religieuses, il y a des interdictions qui frappe le fait de consommer un cadavre. Un cadavre qui n'aurait pas été tué par la main de l'homme. D'une certaine manière, ce qui signifie que la mise à mort dans la consommation carnée n'est pas un événement technique ou accidentel. C'est d'une certaine manière une nécessité qui entrent en ligne de compte dans la consommation de viande.
Mais vous voyez bien là que dans l'histoire de la Cordillère des Andes, ils ne les ont pas tués, ils étaient morts. Le fait de les manger, c'est le fait de les manger qu'ils prennent.
On peut imaginer que pesait un soupçon de crime ou... voilà, puisqu'on imagine une scène, je ne sais pas, je peux projeter une scène dans laquelle les survivants sont toujours... potentiellement coupable d'avoir été l'auteur de crimes pour survivre.
Mais... Il y a un film, vous savez aussi, sur la terrible famine en Ukraine dans les années 30. Je crois que ça s'appelle la tombe de Staline ou quelque chose comme ça. Je suis désolée, je n'ai plus le titre en tête. Qui met en scène Holodomor. Et la scène la plus terrible, évidemment, est celle où des enfants sont en train de se faire cuire... de la chair, et on propose d'ailleurs au reporter qui est sur place, je ne sais plus s'il accepte ou non, d'ailleurs, vous voyez, j'ai moi-même refoulé, et finalement, il comprend que c'est leurs parents morts de faim qu'ils mangent. Il est clair que là-dedans, ce n'est pas le problème de la mise à mort, ils sont morts.
Oui, mais
c'est le problème de manger cette chair-là, qui fait d'ailleurs vomir, rien qu'à l'idée. Peut-être que tout le monde est dégoûté, là d'ailleurs, excusez-moi de parler de ce sujet. Mais c'est aussi ça qui fait que dans les films, enfin, c'est mis en scène. Au moment où on le sait, on ne peut plus manger.
Oui, on le sait, mais gustativement, il n'y a sans doute pas de différence notoire ou dans des différences gastronomiques qui inciteraient plutôt à en manger. Mais moi, j'ai envie de dire, on ne peut pas, au fond, on ne peut pas ne pas mettre à mort. Alors, pourquoi on ne peut pas ne pas mettre à mort? Parce que autant on a débuté l'émission en parlant d'explications, autant il y a une question qui arrive rapidement, c'est la justification de la mise à mort. Et cette justification de la mise à mort, elle passe globalement par quelque chose qui n'a plus cours, mais qui continue d'infuser au fond les esprits, c'est la notion de sacrifice. C'est-à-dire que le sacrifice, c'est effectivement la possibilité, entre guillemets, de mettre à mort un animal, mais également un humain, au fond, en se dédouanant et en se disculpant de sa mort, précisément en lui infligeant la mort.
Alors pourquoi, quelles que soient les raisons pour lesquelles le cannibalisme nous fait horreur, là on vient d'en discuter, ça se reporte parfois, cette angoisse-là, sur les chairs animales non humaines? Florence Burga.
Et peut-être parce que la différence n'est pas si énorme que cela, en fait.
Vous avez bien ça.
Bien sûr, manger sa propre espèce, on a naturellement un dégoût, une barrière, dans la mesure où nous appartenons à une société, et même en Europe, ça ne s'est jamais pratiqué, ce cannibalisme gastronomique. Donc, nous n'avons pas ça dans notre imaginaire, et nous avons un dégoût immédiat. Mais précisément, dans la mise à mort de l'animal, il y a cette résistance, il y a ces cris, il y a ce sang, il y a cette blessure, il y a ces manifestations.
Oui.
Ça n'est pas notre espèce, mais nous reconnaissons bien évidemment dans le moment où l'animal meurt et ne veut pas mourir, une expérience qui serait la nôtre si nous étions à sa place.
Alors là, on touche à un point. Je suis tellement contente de vous avoir. Ça fait très longtemps que je me pose la question que je vais poser maintenant, qui concerne les engagements antispécistes, qui, si j'ai bien compris, pensent qu'il faut nous remettre à l'intérieur du règne animal. Et justement, penser que voilà, nous faire manger, nous, ça nous plairait pas, enfin des choses comme ça. Je trouve ça très intéressant. Mais il y a une question qui me tenaille. Si nous étions à l'intérieur du règne animal, sans cette distinction, cette supériorité spéciste, pourquoi serions-nous plutôt des gazelles que des guépards ? Excusez-moi, je vais être un peu... voilà, précise. Il y a des carnivores dans le monde animal. Alors, il est vrai que j'ignore si les guépards mangeraient les guépards morts. Mais en tout cas, ils mangent les gazelles. Il y a des carnivores, il y a des espèces carnivores. Donc, si nous nous mettons dans ce règne-là, sans aucune supériorité, pourquoi ne serions-nous pas aussi, en partie, des carnivores ?
Alors, d'abord, ce concept d'antispécisme, c'est un concept que je n'utilise jamais, que je n'aime pas du tout. Et je ne crois pas, je voudrais quand même lui rendre justice, même si je ne l'utilise pas, je crois qu'il n'est pas aussi simpliste que de dire « nous sommes des animaux comme les autres et donc faisons ce que font les animaux ». Ce qui, comme vous le dites, n'a aucun sens, puisqu'il y a une diversité infinie de formes de vie animale, et en particulier des carnivores, des herbivores, des charognards, des omnivores, etc. En tout cas, on s'aperçoit que l'humain qui dit bah, « finalement, je suis un animal comme un autre, donc je vais me comporter comme un animal carnivore », ça veut dire que, alors que cet humain, bien évidemment, s'octroie un droit à manger les animaux parce qu'il se place très au-dessus d'eux, s'agissant de la nourriture, se plaît à ce moment-là à changer d'argument et à dire « eh bien, je ne suis finalement rien d'autre qu'un animal carnivore
oui. ».
Mais précisément, nous sommes des omnivores et nous avons la liberté de choisir notre régime, ce qui n'est pas le cas de la plupart des espèces animales qui sont un peu physiologiquement rivées à un régime.
Et nous aurions peut-être besoin, dans notre statut d'omnivore, d'un peu de viande ? J'ai pas dit autant qu'on en mange, hein,
alors,
mais un peu.
L'humanité a expérimenté toutes sortes de régimes, y compris le régime végétarien, depuis très longtemps. Donc je crois qu'on ne peut pas naturaliser cette consommation de viande pour en faire quelque chose de nécessaire, dans la mesure où, depuis des siècles et des siècles, ce régime est expérimenté. Celui qui est le moins expérimenté, c'est celui que nous avons aujourd'hui, qui est hypercarné. Il
oui.
date, en gros, des années 60. Et on voit un peu les ravages qu'il commence
à faire. Il est lié au pays riche.
Et on voit donc un peu les ravages qu'il peut produire sur la santé, même si ce n'est pas un aspect qui m'intéresse.
Olivier Assouli, qu'est-ce que ça vous inspire, cette réflexion sur les arguments anti-viande, notamment l'argument antispéciste, qu'à ma grande surprise, Florence Burga vient de démolir à la suite de ma question naïve. Oui, il y a c'est pas le meilleur argument. Parmi les animaux, il y a des carnivores, peut-être sommes-nous des carnivores. Ça peut même constituer une justification de manger de la viande. Les personnes qui sont contre la consommation carnée feraient bien, nous dit Florence Burga, d'employer d'autres arguments.
Disons que souvent, l'argument en faveur de la viande se réfère à l'idée d'une nature humaine selon laquelle, effectivement, le besoin en protéines serait déjà non remplaçable, ce qui n'est pas, puisqu'il est par définition remplaçable. Ajouter à cela qu'effectivement, il n'y a pas de régime, il me semble qu'il n'existe pas de régime alimentaire tel que ce régime alimentaire serait posé une bonne fois pour toutes. Si on prend Rousseau, c'est assez intéressant de voir qu'effectivement, il montre bien comment les circonstances, au fond, et Plutarque est pas loin de ce... les circonstances définissent des modalités alimentaires susceptibles de varier, donc qui expliqueraient que s'il est possible de remplacer, au fond, la viande devient parfaitement... illégitime et en tout cas n'appartient pas de façon essentielle à ce qu'on appellerait un régime alimentaire humain.
Alors, je n'ai plus le temps d'engager toute la discussion, mais reconnaissez-vous tout de même, d'abord, qu'il y a quelques voix médicales qui sont d'accord avec vous pour les adultes. Nous n'avons pas besoin de viande, nous pouvons tout remplacer, mais qui mettent quelques bémols concernant les enfants, les adolescents, peut-être d'ailleurs aussi les personnes âgées. Il y a un problème de fer hein, qui ne s'assimile pas, paraît-il, de la même manière. Nous avons un peu travaillé là avec l'équipe. Le fer dans les aliments végétaux ne s'assimile pas autant que le fer dans la viande. Mais il y a aussi la question des acides aminés. Il faut des combinaisons très précises sur le plan végétal pour en avoir.
Elles sont très simples.
N'empêche qu'il existe beaucoup de nutritionnistes pédiatriques qui alertent.
Français. Parce que, oui, moi j'ai pas fait la revue, mais j'ai des collègues qui l'ont faite, et ce sont uniquement les nutritionnistes français qui disent ça. Et c'est quand même assez, on peut y réfléchir. Voilà.
Vous pensez que ce sont eux qui sont dans l'idéologie et vous dans la raison, et pas l'inverse.
Et eux diraient l'inverse, voilà. Vous voyez.
Et vous, Olivier Assouli, vous êtes aussi très sceptique sur les propos un peu plus scientifiques et médicaux qui alertent sur le fait que les enfants, les adolescents, ont besoin quand même, enfin c'est plus sûr pour leurs besoins quand même de mettre un peu de viande.
Si on faisait la genèse de cette proposition, de cet argument, elle est assez classique et connue des défenseurs et notamment aujourd'hui des interprofessionnels de la viande qui tendent effectivement à montrer qu'il y a une sorte de nécessité absolue qui fait que la viande serait irremplaçable, et au reste, ce sont les mêmes qui ont introduit ces idées de flexitariens, en imaginant qu'il y a une consommation modulable, mais irremplaçable.
Même, par exemple, par rapport aux œufs et au lait, pour les végétariens, ça marche très bien pour l'apport en protéines, mais il reste cette petite question, seulement peut-être pour les enfants et les adolescents, de leur... du fer, il y en a plus dans la viande, ça s'assimile mieux. Tout ça, ça vous paraît des faux débats ?
Non, c'est pas des faux débats, mais c'est des débats qui ont nécessairement une connotation idéologique. Dès lors qu'on mobilise généralement la diététique ou la médecine.
À cause des règles, évidemment, archaïques qu'on a envie de mettre là-dedans.
Ouais,
c'est ça que vous voulez dire. Et je vous laisse le dernier mot, Florence Burga, mais il faudrait qu'il soit court. Non, vous pensez que tout a été dit, là.
Je ne sais pas si tout a été dit.
Voilà, on passe à une chanson, Junk Food Junkie, d'un chanteur-compositeur américain, Carrie Gross, qui en 1976 est très culpabilisé. Il voudrait bien se comporter alimentairement, mais il aime bien la junk food.
You know I love that organic cooking. I always ask for more. And they call me Mr. Natural. On down to the health food store. I only eat good sea salt. White sugar don't touch my lips. And my friends is always begging me to take them on macrobiotic trips. Yes, they are. All but night I take out my strong box that I keep under lock and key. And I take it off to my closet where nobody else can see. I open that door so slowly, take a peek up north and south. Then I pull out a Hostess Twinkie and I pop it in my mouth. Yeah, in the daytime I'm Mr. Natural, just as healthy as I can be. But at night I'm a junk food junkie. Good Lord, have pity on me.
Merci beaucoup Florence Burga et Olivier Assouli. Merci, les références de vos travaux sont précisées sur le site de notre émission. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il interroge les titres et la gloire. Voici le pourquoi du comment.
Comment attribue-t-on un titre à quelqu'un ? On s'adresse parfois à une autre personne à travers ce que l'on appelle un titre et cela pose des problèmes peut-être plus profonds que cela en a l'air. Prenons un exemple d'un titre d'ailleurs ambigu, peut-être pas le plus simple en apparence, mais aussi celui qui ouvre sur la complexité du problème apparemment secondaire mais peut-être fondamental des titres parmi les êtres humains. Prenons cette étrange expression de maître. On appelle quelqu'un maître, par exemple, en raison d'un certain type de fonction. Traditionnellement, en France encore, les les avocats sont appelés maîtres et cela renvoie à un ordre qui certes est fondé sur un mérite individuel, sur quelqu'un qui a passé des examens, qui a obtenu les titres pour avoir ce titre en quelque sorte, mais un ordre qui ensuite donne certains droits rattachés peut-être d'une manière substantielle, fonctionnelle, comme si la société avait besoin de distinguer des ordres, l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, des ordres pour fonctionner comme il y a eu avant la Révolution française, en quelque sorte, en France en tout cas, des ordres de noblesse qui avaient des effets et des fonctions sociales. Alors on disait, monsieur le duc, votre majesté, et dans certains pays, cela existe encore, et une société est fondée aussi sur des systèmes d'attribution de titres. Mais d'un autre côté, il y a un autre usage de la notion de maître qui n'est pas seulement dans l'usage scolaire, par exemple, du maître ou de la maîtresse avec ses élèves, parce que là, on est encore dans la fonction sociale qui réclame un certain type de distinction pour fonctionner, un certain type d'autorité, d'institution de l'autorité, mais on peut être aussi dans la vénération individuelle. Le maître et le disciple, leur relation ne fonctionne pas seulement sur une fonction sociale instituée en général. C'est le disciple qui reconnaît son maître et qui l'appelle maître. Peut-être que le maître ne veut pas être appelé maître. C'est toute l'ambiguïté de certains maîtres. Par exemple, Nietzsche qui, dans Zarathoustra, refuse d'être appelé maître par ses disciples, refuse la notion même de disciple. Mais d'une certaine façon, c'est aussi parce que les disciples reconnaissent librement des maîtres, s'inspirent de leur personnalité et non pas d'une fonction ou de leur œuvre. Et non pas d'une fonction a priori extérieure et sociale, que cet usage du mot maître nous oriente vers la deuxième fonction sociale du titre, qui est d'abord la reconnaissance au sens humain, individuel, libre, admiratif, d'un mérite individuel, un mérite qui fait que oui, nous reconnaissons certains comme des sages, nous reconnaissons aussi certains comme des champions, il a couru plus vite, il a le titre de champion du monde, il l'a mérité parce qu'il a couru plus vite ou nagé plus vite que les autres. Il y a donc un flottement dans la notion de titre qui, d'un côté, est attribué pour des raisons sociales, à l'extrême limite de laquelle on trouve des ordres, en quelque sorte, qui prétendent à un fondement ontologique, à un fondement dans l'être, à une distinction absolue. Il y a, à l'extrême limite, les castes, par exemple, dans certains régimes, dans certaines sociétés. La société des castes en Inde fait que les titres sont distincts radicalement les êtres humains et contestent toute égalité et tout mérite individuel. C'est une question de naissance et de classement social. À l'autre extrême, encore une fois, il y a le mérite purement individuel, le fondement des titres sur une action individuelle. Dans l'attribution des titres de noblesse ou des titres de gloire, on part au départ d'un mérite individuel qui peut ensuite devenir un titre héréditaire, un titre de distinction sociale pure. Le fonctionnement des titres dans une société, dites-moi comment fonctionnent les titres et je vous dirai comment fonctionne une société. Une société républicaine, qu'on dit parfois méritocratique, est une société qui n'attribue des titres que comme des fonctions provisoires en fonction justement d'épreuves et de mérites individuels. Il y a alors des concours pour accéder à des titres. Et la confiance dans ces procédures d'intitulation ou de désignation est fondamentale dans une société. Mais d'un autre côté, la chose la plus profonde, c'est peut-être la reconnaissance profonde de titres individuels à notre estime, à notre amour, à notre admiration. Alors entre les deux extrêmes des titres parmi les humains, on ne peut pas se passer de cette distinction sociale, mais il faut qu'elle soit fondée sur nos relations morales.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Elle a été préparée en particulier par Chaïma Giboire et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Armance Bourquin, Anna Felpin, Axel Dubois, Carla Michel et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité!